Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur le texte que nous entendrons dimanche prochain, tiré de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 4, les versets 12 à 23. Le texte nous invitera notamment à nous interroger si la lumière d'espérance qui s'était levée alors est encore valide pour notre temps. Mais commençons par écouter l'Évangile. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Fin de la lecture. En citant Isaïe, l'évangile nous parle d'une grande lumière, une lumière qui s'est levée. Prenons la mesure de cette lumière. Quelle est-elle? La première, par Jésus, on nous dit qu'il donne un enseignement. Donc il donne une interprétation, un éclairage sur le monde, un éclairage sur la relation avec Dieu. Il donne du sens. C'est la première lumière qu'il apporte. Face à l'idée d'un monde absurde, face à la question d'une vie qui ne sait vers où s'orienter, le Seigneur trace un chemin. Il donne une perspective, il donne un objectif. La deuxième lumière est de l'ordre de la guérison, où l'on nous dit que le Christ guérissait toute maladie et toute infirmité. Le terme d'infirmité pourrait être traduit autrement. Littéralement, il désigne la mollesse qui résulte d'une maladie. Parfois, on le traduit par langueur, toute langueur, qui est intéressant parce qu'elle vient rejoindre aussi une dimension, on pourrait dire, psychologique. Pas simplement le corps qui réagit, mais aussi l'âme qui est amollie, affaiblie par le résultat de la maladie. Il vient intervenir donc sur toutes les dimensions de l'être humain. Cette lumière est aussi à travers lui, à travers sa personne, une présence. On peut voir Jésus. On peut l'entendre, on peut s'approcher de lui. Il n'est pas un concept compliqué, il n'est pas un trésor inaccessible perché en haut d'une très haute montagne. Il était là présent sur les routes de Galilée. La lumière apportée continue. C'est aussi l'accomplissement de, on pourrait dire, notre vocation, de notre travail. Vous voyez, quand il dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, à ceux qui sont des pêcheurs », son intervention vient à la fois transformer leurs tâches, mais en même temps l'accomplir. Vous voyez, il garde ce même terme de pêcheur. Ça va trouver la plénitude de son sens. C'est une précieuse lumière que de pouvoir trouver au cœur de son travail une plénitude de sens. Beaucoup de gens dépriment aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas quelle est l'utilité, quelle est la finalité de ce à quoi ils passent tant de temps dans leur journée. Il y a une souffrance réelle du travail qui ne connaît pas un sens qui nourrit. C'est aussi la lumière de la constitution d'un peuple de frères. Vous voyez combien on insiste sur les disciples que Jésus appelle, et on insiste sur le fait que Pierre et André sont des frères, que Jacques et Jean sont des frères. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'on se rend compte que la fraternité est difficile. Pensons aux premières histoires du livre de la Genèse. C'est Caïn qui tue son frère Abel. C'est la lutte de Jacob et Ésaü. C'est Joseph vendu par ses frères. Et voilà qu'avec Jésus, on est face à une fraternité qui réussit. Nous comprenons bien combien il serait précieux, combien il serait doux que cette fraternité réussisse dans notre vie aussi. La lumière qu'apporte Jésus, c'est aussi la possibilité de la conversion. Convertissez-vous. Quand Jésus dit cela, c'est pas simplement pour nous rappeler que c'est possible, mais c'était pour dire qu'il y a la grâce de le faire. Cette grâce est donnée. C'est une vraie lumière qui était apportée. Et ce qu'il annonce, c'est l'évangile du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est partager la vie avec Dieu et finalement vivre comme Dieu. Oui, il y a une lumière éclatante qui était apportée par Jésus sur les routes de Galilée. Mais alors cela pose une question. Pourquoi cette lumière si éclatante qui a été apportée n'est-elle pas aujourd'hui encore aussi brillante? Pourquoi est-ce qu'elle ne brille pas sur toute la terre? Elle a été apportée. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas embrasé le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a encore de la ténèbre dans le monde? On a l'impression que cette espérance qui nous avait été offerte a comme disparu, ou s'est évanouie, ou n'a pas déployé son fruit. On a l'impression, d'une certaine manière, d'être revenu dans l'ombre et le pays de la mort, pour reprendre l'expression d'Isaïe. La guerre est présente, les injustices sociales sont présentes, le discernement de la vérité est confronté à une grande confusion qui va jusqu'à comprendre ce qu'est une famille, ce qu'est un homme et une femme, ce qu'est l'éducation d'un enfant. D'une certaine manière, on a l'impression que le soufflet est retombé. On pourrait se demander alors, mais est-ce que l'annonce de l'évangile a échoué ? En fait, il faut se rendre compte d'une chose. C'est que l'annonce de l'Évangile recommence pour chacune des générations. L'annonce de l'Évangile recommence pour chaque homme. C'est chacun qui doit entendre l'appel de Jésus à le suivre, et c'est chacun qui doit y répondre. Et donc, tant que notre monde durera, il y aura un renouvellement de cette annonce de l'Évangile qui est nécessaire. Avec chaque être humain, on repart du début parce que c'est chaque être humain qui doit personnellement se déterminer face à l'annonce de l'Évangile. Cette nécessité de la répétition de l'annonce ne vient pas d'un échec de l'Évangile, mais vient de la réalité du renouvellement des générations humaines et de la réalité de la nécessité de l'engagement de la liberté de chaque personne humaine. Le renouvellement de l'évangélisation est donc constituant de l'Église, parce que chaque homme doit faire personnellement ce chemin de liberté pour accueillir la lumière de Jésus. Du coup, l'Évangile de ce jour que nous entendons vient renouveler notre espérance et notre élan missionnaire. Comment cela ? Eh bien, la lumière avait pu se lever dans le pays de l'ombre et de la mort autrefois. Eh bien, cette même lumière saura se lever dans le pays de l'ombre et de la mort d'aujourd'hui. Nous savons que cette annonce a été possible, nous savons que cette annonce a porté du fruit autrefois, elle peut donc porter du fruit aujourd'hui, même si nous sommes à nouveau dans un pays d'ombre et de mort. Mais pourrions-nous interroger avec inquiétude, comment vivre cela ? Est-ce que la présence du Christ est encore là ? Autrefois, c'était Jésus lui-même qui était là. Eh bien, l'évangile de saint Matthieu prend à bras le corps cette question. Souvenez-vous de la finale de cet évangile, où il nous est dit que Jésus annonce à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». La présence de Jésus est bien là, dans son Église, à travers son Église. Il est bien présent dans l'Eucharistie, où nous pouvons refaire nos forces, notamment en prolongeant l'Eucharistie par l'adoration eucharistique. C'est là que nous apprenons à être tout près de lui, comme les apôtres ont été tout près de lui. Nous saisissons mieux alors l'importance de la messe et l'importance de l'adoration, cette proximité avec Jésus, proximité non pas seulement spirituelle, mais proximité physique avec le corps de Jésus. Le Christ est présent aussi à travers les frères baptisés qui sont les membres de son corps. Je sais que chacun, vous avez pu en faire l'expérience d'une façon toute particulière, notamment à travers la prière des frères, où vous avez reçu, à travers vos frères baptisés, cette consolation venue de la personne même de Jésus. Nous comprenons alors que cette lumière qui a éclairé le monde il y a 2000 ans est encore la même lumière qui veut l'éclairer aujourd'hui. Du coup, cela nous invite à deux attitudes. La première, c'est la disponibilité à nous laisser appeler. Pierre et André, Jacques et Jean étaient sur les bords de la mer de Galilée, sur le chemin qui les menait au travail ou sur leur lieu de travail. Eh bien, quelle est ma mer de Galilée à moi, où je peux me laisser interpeller? C'est peut-être ma maison, c'est peut-être le chemin vers le travail, c'est peut-être le lieu du travail ou le chemin que je prends quand je reviens. Mais c'est aussi concret que cela, c'est là que le Seigneur vient m'appeler. C'est sur ce chemin tout quotidien que je dois prendre conscience, mais Seigneur, en fait tu m'appelles. En fait ce matin tu viens me voir, en fait cet après-midi tu viens me voir, en fait ce soir c'est à moi que tu adresses cette parole, suis-moi. Et tu me l'adresses comme autrefois à Pierre et à André, à Jacques et à Jean. Et je commence à me laisser justement rassembler par toi en me retrouvant pour prier avec mes frères, en me retrouvant en cellule paroissiale d'évangélisation, en me retrouvant à la messe, en me retrouvant devant toi à l'adoration. Première chose, se laisser appeler. Deuxième chose, demander à être renouvelé dans la vertu d'espérance. La vertu d'espérance est celle qui comprend cela où Dieu veut nous mener, au royaume, à la vie avec lui, dans un peuple de frères, dans un peuple saint. Que cette bonne nouvelle soit annoncée à tous, que cette bonne nouvelle soit mise à la portée de tous. Et la force de le croire est un don de Dieu. L'espérance est une vertu théologale, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit infusée par Dieu dans notre âme. Mais Dieu veut l'infuser dans notre âme, si nous le lui demandons, si nous le désirons, si nous en faisons la demande persévérante, répétée, alors nous aurons cette détermination, cette joie, ce cœur capable de déborder, notamment vis-à-vis de nos oïkos, pour partager la lumière de Jésus. Au terme de cet enseignement, retenons peut-être trois points particuliers. La lumière que Jésus apporte pour toutes les dimensions de la vie de l'homme, jusque dans les relations avec les autres. La deuxième, parce que chaque génération est nouvelle, parce que chaque histoire humaine est nouvelle, l'annonce de cette lumière doit sans cesse être renouvelée pour que chaque homme fasse ce chemin. La troisième, c'est que le Christ est présent aujourd'hui, comme il l'était autrefois. Il est présent réellement à travers son Église, dans son corps eucharistique, dans les frères baptisés qu'il nous donne. Laissons-nous appeler et demandons la flamme de l'espérance. Je vous souhaite de bons échanges.